Et comment je vais souhaiter que cette différence, j'en prenne pleinement la mesure. Je ne vais pas. C'est très difficile parce que nous fonctionnons toujours par analogie. Si je vous dis j'ai un verre sous la table, verre, vous voyez à peu près ce que c'est. Alors, vous ne savez pas s'il est en plastique ou s'il est en verre, mais on fonctionne par analogie. Le mot renvoie à quelque chose qu'on connaît déjà. Le problème, c'est que dans la relation, le mot ne renvoie jamais à ce que je connais déjà. Ou alors, c'est de l'autrucide. C'est-à-dire que je n'ai jamais fini de savoir ce que l'autre veut dire. Quelqu'un qui me dit « je t'aime », qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui dit qu'il aime les fleurs, il les coupe. Il dit qu'il aime les oiseaux, il les met en cage. Quelqu'un, vous voyez, toute parole que l'autre me dit, ben je ne sais pas ce que ça veut dire. Ou alors, processus d'analogie, je sais bien ce que ça veut dire, mais qu'est-ce qui me permet de penser que l'autre pense comme moi, utilise les mêmes mots que moi et la même grammaire que moi? Alors si c'est mon frère, ma mère, enfin si c'est quelqu'un de même sang que moi ou qui a vécu, c'est possible qu'il y ait un peu une grammaire commune, même s'il y a des sacrées différences, et on le voit quand on vieillit entre frères et sœurs, qu'on a des grammaires très différentes. Mais si c'est quelqu'un que je rencontre, comment est-ce que je peux savoir que les mots que j'utilise sont clairs pour lui et que les mots qu'il utilise sont clairs pour moi? Et c'est toute la beauté et le défi de la rencontre. C'est que souvent, on est dans un dialogue de sourd. Et c'est toute la difficulté de la rencontre de l'autre. Vous voyez que c'est assez facile de savoir ce que sont les musulmans. Et interroger 10 catholiques ou 100 catholiques, vous en aurez 90% qui sauront exactement ce que sont les musulmans, ce qu'ils croient. On sait tout sur les musulmans. Et quand vous demandez à ces gens-là, vous en connaissez un, à peu près à coup sûr, ils vous diront non. Alors je dis ça sur les musulmans, mais je dirais la même chose sur les ziganes, sur plein de personnes, sur plein de situations. C'est-à-dire qu'en fait, nous savons avant d'avoir accueilli l'altérité de l'autre. Nous nous avons une idée sur l'autre, et naturellement l'autre va rentrer. Sauf que l'autre n'a pas toujours envie de rentrer. Si je prends encore un exemple pour les musulmans, les Français somment les musulmans normaux de dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec les musulmans anormaux. Mais les musulmans anormaux n'ont pas obligatoirement envie de dire « je ne suis pas d'accord avec les musulmans poseurs de monde ». Au nom de quoi? Vous voyez, parce que ça laisse entendre « vous êtes tout compte fait un peu de la même famille, donc il faut que vous disiez que vous n'êtes... » Au nom de quoi? C'est-à-dire que nous avons, nous, un schéma et nous demandons aux gens d'entrer dans notre schéma. Et ils sont très embarrassés parce que, j'allais dire, c'est du chinois, ils ne comprennent pas. De même, quand on demande à des gens de s'habiller comme nous, quand on demande à des gens de manger comme nous. Vous savez bien que dans toute famille, lorsque quelqu'un drague quelqu'un, ça s'appelle une pièce rapportée. Et vous savez que dans la Bible, on dit qu'on ne met pas une pièce de tissu neuve sur un vieux tissu. Ce qui fait qu'il y a pas mal de pièces rapportées où ça fonctionne mal. Il arrive qu'avec le temps, la pièce rapportée devienne une valeur ajoutée. Et bien dans la vie, c'est toujours comme ça dans la rencontre de l'autre. C'est toujours une pièce rapportée qui gêne aux entournures. Il peut arriver qu'avec le temps, la pièce rapportée devienne une valeur ajoutée. Et devienne même une valeur ajoutée à moi. C'est-à-dire, je ne suis plus le même depuis que j'ai rencontré telle personne qui, au départ, m'énervait, me scandalisait, me ceci, me cela. C'est-à-dire, l'altérité de l'autre, non seulement je ne l'ai pas nié, autricide, inceste, instrumentalisation, mais l'altérité de l'autre, j'ai souhaité la découvrir dans toute sa profondeur. Vous avez plein de gens qui partent en vacances au club méditerranéen, c'est très bien. Et seulement si je vais au club méditerranéen de Dakar, je ne suis pas sûr que je connaisse les Sénégalais. Quels moyens nous prenons, y compris quand nous allons, pas obligatoirement au Sénégal, on peut aller à Romorantin, quels moyens nous prenons pour découvrir l'altérité de l'autre et nous enrichir de l'altérité de l'autre. Et vous voyez bien qu'on n'est plus à l'époque de l'individualisme et de la mondialisation, on n'est plus en train de défendre, c'est pour ça que je trouve curieux tout ce qui se dit dans les primaires, là, on n'est plus en train de défendre notre pré carré. On est dans du dialogue constant. Soit quand on va à l'extérieur, il y a 200 000 Français à Londres. J'espère qu'ils découvrent les Londoniens et qu'ils ne vivent pas trop entre eux. Comment, lorsque nous voyageons, nous allons à la quête de l'altérité? Comment, lorsque nous rencontrons des gens qui voyagent et qui viennent chez nous, nous allons à la quête de l'altérité? Avec cette certitude intérieure que cette différence qui peut être embêtante, ne serait-ce que la différence de la langue, parfois des différences de comportement, de coutumes, etc., ne peuvent être qu'un enrichissement de mon moi qui, autrement, est enfermé dans sa caverne. Et heureusement, par exemple, qu'un petit enfant va à l'école. Alors bien sûr, les parents sont toujours embêtés parce qu'il va attraper des poux, il va attraper des maladies et il va dire des gros mots. Mais il va se passer peut-être autre chose aussi à l'école. Tout simplement la relativisation du modèle familial, et qui est une chance extraordinaire. C'est-à-dire, j'étais élevé dans un modèle et je découvre qu'il y a d'autres modèles. Et c'est ça ce qui est merveilleux. Et que nous passons notre vie, normalement, si nous sommes à peu près bien constitués, à rencontrer des modèles qui nous construisent. Alors, ils nous altèrent au départ, soyons clairs. Ne commençons pas par dire tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. C'est pas vrai. Ils nous altèrent au départ, ils nous énervent, ils nous bousculent. Mais l'enjeu, c'est comment faire de la pièce rapportée qui, parfois, on a l'impression qu'elle va pas tenir sur le vieux tissu, comment cette pièce rapportée devient une valeur ajoutée. C'est-à-dire comment, tout doucement, je deviens par l'altérité. Comment j'adviens à moi-même et à mon identité personnelle la plus grande par l'intermédiaire de l'altérité. Et vous découvrirez ça, et c'est bon, pas un quotidien, dans la rencontre des malades, dans la rencontre des personnes handicapées, dans la rencontre des personnes âgées, nous découvrons ce que nous ne sommes pas, mais nous grandissons dans notre propre identité, dans l'accueil de leur différence radicale. Et j'ai à souhaiter la différence de l'autre. Parce que la différence de l'autre ne peut que, in fine, et je répète, parfois c'est long, me faire grandir. Alors c'est vrai que je conçois bien que chacun d'entre nous doit alternativement se retrouver dans des lieux un peu d'identité, ça fait pas de mal, et de se retrouver dans des lieux de relation à de l'autre. Alors c'est vrai qu'on peut avoir besoin, par moment, de se retrouver un peu, avec des gens qui pensent comme nous, avec des gens qui ont des mêmes sensibilités que nous, je comprends tout à fait. Mais attention à cette tentation qui viserait à dire que là se joue mon identité, sous-entendu en me protégeant de l'altérité des autres. Surtout si en plus je fais une machine arrière en devenant holiste et en disant « ça c'est chez nous, ça c'est la meilleure manière d'être et les autres sont des barbares et sont différents ». Ce travail de l'altérité est quelque chose de fondamental parce que c'est le travail de l'unité. L'unité, vous le savez bien, n'est pas l'uniformité. L'unité, saint Paul a un texte qui est très beau lorsqu'il parle du corps, dans le chapitre 12 de la première aux Corinthiens, lorsqu'il dit dans le corps, il y a des membres différents. Mais chaque membre doit respecter la différence de l'autre. La main n'est pas le pied, l'oreille n'est pas la bouche. Mais chaque membre a sa place et chaque membre a envie qu'il y ait l'autre membre. C'est-à-dire, nous avons besoin de cette diversité pour faire unité. C'est d'ailleurs, le mot catholique est un mot très beau, puisqu'il veut dire universel. Et par exemple, une assemblée dominicale, n'est pas catholique. Puisqu'il n'y a quasiment pas de handicapés, il n'y a pas de malades, il y a très peu d'enfants, il y a très peu d'adultes de 30-40 ans. Elle n'est pas catholique. C'est une assemblée de gens qui se connaissent depuis un certain temps. Parce que c'est exigeant d'être catholique, c'est exigeant d'être toujours dans cette attente de l'autre qui va me faire grandir, dans ce désir de la différence. C'est tout l'enjeu du vivre ensemble, qui n'est pas, j'allais dire, de rejeter l'autre, mais qui est d'avoir, donc, pour reprendre le titre, cette juste place dans la relation à l'autre. Je ne le bouffe pas, je ne l'utilise pas, je ne mets pas la main sur lui, mais je me laisse, et c'est réciproque, puisque qui dit dialogue dit réciprocité, je me laisse façonner par cette relation. Et vous le savez bien, ce sont nos relations qui nous ont fait ce que nous sommes, qui nous ont façonnés. Il faut avoir, comme dit mon amie Elena Lacida, le goût de l'autre. Il ne faut pas subir l'autre, mais avoir le goût de l'autre. Le goût, par exemple, lorsque je lis toujours tel journal, ça vaut la peine que parfois je lise un journal totalement différent. Lorsque je vais ou lorsque je lis tel type de livre, ça vaut la peine que par moment je lise tout autre chose pour justement me laisser là aussi bousculer, façonner. Parce que j'ai à découvrir, si vous voulez, que tout être est créateur. Et c'est pour ça que je ne peux pas considérer un être comme une chose, je ne peux pas l'instrumentaliser. Tout être humain est créateur, et j'oserais dire, même les êtres les plus fragiles sont créateurs et ont quelque chose à faire advenir. Et que nous participons les uns et les autres à cette création que Dieu nous a confiée. Et que quand quelqu'un n'est pas créateur, quand quelqu'un n'arrive pas à dire « je », qu'il soit immigré, malade, handicapé, vieux, quand quelqu'un n'arrive pas à dire « je », il manque à l'acte créateur. Puisque l'acte créateur de Dieu est confié aux hommes et pas à quelques-uns. Pas aux gens de la Silicon Valley qui veulent faire du transhumanisme. L'acte de création, il est confié à tous les hommes. Et je ne peux pas a priori dire à quelqu'un « tu n'es pas un homme créateur » ou « tu n'es pas une femme créatrice ». Mais j'ai au contraire à établir une relation pour que l'autre advienne dans un jeu J-E et un jeu créateur. Il apporte sa pierre à l'ouvrage. J'ai besoin de toi. C'est l'enjeu même de la réalité de l'Église. L'Église elle-même n'existe que dans l'altérité. D'abord parce qu'elle n'invente pas le Dieu auquel elle croit. Et vous, je cite toujours le passage d'Isaïe 55, où Dieu dit « c'est que mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas les miens ». Il faut toujours se dire que tout ce que je dis sur Dieu, c'est faux. C'est mes mots à moi. C'est pour ça qu'il ne faut pas se battre sur Dieu, hein. Venez le 21 octobre, je dirai des choses précises. Mais on n'a pas, vous voyez, et que plein de guerres, plein de problèmes ont été justement sur des paroles sur Dieu qui n'avaient aucun lieu, aucune raison d'être. Et d'ailleurs, les Juifs le disent bien, de ne pas faire d'image, c'est pas les Juifs qui le disent, c'est les commandements, et de ne pas utiliser le nom de Dieu, ce qui amènera les Juifs à ne jamais utiliser le mot Dieu. Regardez, alors on peut être critique chez les autres, regardez la manière dont le mot Allah est utilisé. Allah Akbar, c'est une très belle, c'est très beau, Dieu est grand. Et regardez comment c'est utilisé. Mais la même chose, hein, Gott mit uns, sur les ceinturons allemands. In God we trust, sur les dollars. Pas mieux, hein. Si c'est une perversion, c'est une perversion radicale. Non. Et de fait, nous pervertissons, puisque fondamentalement, l'Église n'existe que dans le respect de cette altérité. Tu ne te feras pas de représentation de Dieu. Et que nous existons, lorsque nous nous rassemblons le dimanche, pour entendre une parole qui n'est pas la nôtre, et qui parfois est emmerdante, elle nous bouscule, elle nous dérange, elle vient d'ailleurs, parce que nous sommes toujours dans cette situation d'altérité, et donc d'altération. La parole de Dieu, elle est faite pour nous dérouter, pour nous déranger. Et d'ailleurs, si on n'y fait pas gaffe, on choisirait toujours les mêmes textes qui vont dans notre sens ou qui nous font plaisir. Et que l'enjeu de la liturgie, c'est seulement de dire, c'est pas vous qui l'avez choisi, tiens, le voilà. Et encore, vous avez de la chance, parce que généralement, vous ne faites pas de commentaires. Mais que nous, on est obligé d'en faire, même si c'est les textes qui ne sont pas... La parole de Dieu ne propose pas un bonheur individuel, un bien-être individuel, elle propose une sortie de soi. C'est pour ça que le pape François revient toujours sur ce verbe « sortir ». Je vous ai dit tout à l'heure, la protestation des prophètes, c'était qu'Abraham avait été invité à quitter, partir. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, moi je n'ai pas pu y aller. Il y a eu les journées de Blois, sur l'histoire, dont le thème cette année était « partir ». Je crois que c'est, enfin, moi j'ai arrêté de ne pas avoir le temps, mais ça devait être des choses passionnantes, parce que partir est la condition humaine, c'est la condition de l'homme. Le nomadisme est la condition de l'homme, pas seulement des migrants qui sont à Calais. Partir est la condition de l'homme. Alors il y a des gens qui ont suffisamment de fric pour avoir une belle voiture ou prendre l'avion pour partir à 10 000 km. Il y en a qui n'ont pas de fric et qui viennent en bateau et la moitié des bateaux coulent dans la Méditerranée. Mais c'est le même voyage. C'est le fait de sortir pour aller vers. Pour aller vers quelque chose. Vous n'allez pas en voyage dans un endroit emmerdant. Vous allez en voyage dans un endroit qui vous fait plaisir. Eh bien eux, ils viennent dans un endroit qui leur fait plaisir parce qu'ils pensent que c'est l'Eldorado. C'est la même chose. Sauf qu'il y en a qui ont du fric et d'autres pas. Mais ça n'enlève rien au fait que c'est le même mouvement qui existe chez l'homme depuis que l'homme est homme, puisque fondamentalement, le nomadisme est la condition de l'être humain. Alors, c'est un peu moins depuis que l'être humain, avec le néolithique, est passé à l'agriculture. Quand nous étions des cueilleurs et des chasseurs, on était continuellement en train de bouger. Bon, il y a 3000, 4000 ans, on s'est un peu sédentarisé, et c'est vrai, dans la mesure où on a fait des cultures, on a mis des clôtures autour, et puis on a construit des villes, et on s'est un peu sédentarisé, mais au cours de l'histoire, les mouvements de population ont été énormes, énormes. Et au cours de l'histoire, des tas de Français sont allés voir ailleurs, et des tas de gens sont venus en France, etc. Donc arrêtons d'avoir l'impression qu'il y a un problème des migrants. Il y a une condition humaine qui est une condition itinérante. Point. Qui constitue l'être humain, à condition justement que dans cette itinérance, l'être humain entre en dialogue, entre en relation, advienne. Mais pour entrer en dialogue, il faut que chacun respecte l'autre. Alors vous savez, après on est comme les gamins, c'est pas lui, c'est moi. Savoir qui a commencé à pas respecter, c'est compliqué. Mais je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui ne me respecte pas si je ne le respecte pas. Vous savez, c'est comme les flics qui tutoient les jeunes des banlieues. Ah, les jeunes des banlieues les tutoient. Je ne peux pas demander à l'autre du respect pour ce que je suis, pour mes, pourquoi, pour mes plantations, pour si je n'ai pas de respect pour lui. Là aussi, regardez le problème avec les gens du voyage, la manière dont on les juge, a priori. Alors peut-être qu'ils ont du chemin à faire, c'est possible. Mais je ne peux pas demander aux autres de faire du chemin pour venir vers moi si moi je ne fais pas du chemin pour accueillir l'altérité de l'autre. Et pour entrer en sachant que l'autre, il a raison de bouger. Ce n'est pas un anormal parce qu'il bouge. Alors il bouge un peu plus que nous et dans d'autres conditions que nous. Notez que je bouge plus que les gitans, hein. Au moins actuellement. C'est-à-dire que je fais plus de kilomètres qu'eux. Chaque semaine. Donc je veux dire, qui est-ce qui est nomade? J'en sais rien. Nous sommes, et dans les trains que je prends le matin à 7h, il y a des centaines de tourangeaux. Nous sommes tous des nomades. Bon. Donc il y en a qui sont un peu mieux sapés que d'autres, il y en a qui couchent dans des lieux où il fait meilleur que d'autres, mais nous sommes dans une même réalité. La mobilité nous constitue et constitue l'être humain. Et constitue l'être humain croyant. Part, quitte ce pays, part pour le pays que je vous montrerai. Aucune terre n'est la nôtre, toute terre nous est étrangère. Mais en même temps, nous sommes appelés à fructifier dans toute terre. Donc, cette réalité de l'Église, si vous voulez, est quelque chose de fondamental. Je terminerai, parce que j'avais dit que je parlerai une heure. Je terminerai, si vous voulez, en nous invitant d'abord à être des couloirs. Israël, la terre promise, c'est un couloir, je vous ai dit tout à l'heure. Soyez des couloirs. C'est-à-dire, soyez dans l'attitude de la joie de la rencontre. Quand on est dans un couloir, c'est pour rencontrer des gens. Sinon, on s'enferme à double tour. Je raconte souvent qu'un ami théologien m'avait dit qu'il avait vu plusieurs pavillons dans la région parisienne. Mon paradis, attention chien méchant. Ben oui, ça c'est pas des couloirs. Hein. C'est sûr que si je suis chez moi, qu'on me foute la paix et je foutrai la paix aux gens, c'est pas la meilleure manière pour vivre ensemble et pour exister relationnellement. Et donc comment nous faisons de nos existences des couloirs? Comment la figure de l'alliance, qui est la figure de la confiance, Dieu fait alliance avec nous, et lorsque nous avons été baptisés, on a signifié sur nous que Dieu faisait alliance avec nous. Qui suis-je pour que Dieu fasse alliance avec moi? C'est une alliance a priori, surtout que si on a été baptisé tout gamin, il n'a pas fait alliance avec nous parce qu'on était bien. Il fait alliance avec nous dans cet a priori. Pourquoi est-ce que nous ne commencerions pas par faire alliance a priori? C'est-à-dire pas rentrer dans une logique d'alliance et pas dans une logique de contrat. Vous savez, dans les contrats où on chipote sur tous les mots. Une logique d'alliance, de confiance. Ensuite, comment entrer dans une logique de création, et la création c'est à la fois le fait de donner vie, c'est ça être créateur, hein, c'est de donner la vie, de transmettre la vie, en acceptant l'inattendu de Dieu, et de ne pas être dans des logiques de maîtrise, où on veut tout maîtriser. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans des logiques de maîtrise, et on veut même maîtriser le nombre de gens qui entrent chez nous. On veut tout maîtriser. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut maîtriser la manière dont ils vont se comporter, comment ils vont... Oui, qu'est-ce que c'est que cette espèce de peur qui nous fait être dans une logique où nous voulons tout maîtriser, y compris de l'autre? Mais notre société a peur aussi des malades mentaux. Elle veut absolument les maîtriser, ça je pourrais vous faire une conférence toute la journée là-dessus. Notre société a peur de tout ce qui dérange parce qu'on veut maîtriser. Donc y compris les étrangers, mais toute personne qui... Vous savez, c'est un petit peu comme ces parents qui sont toujours très gênés de voir leur enfant vivre avec quelqu'un. Bon, alors quand est-ce que vous allez vous marier? Parce que là, tout de même, alors qu'on peut tout à fait briser un mariage, c'est pas difficile, hein. Mais on a l'impression que là, au moins, ça va être, on va maîtriser les choses, hein. Je me souviens comme ça d'un père de famille, mais c'est il y a tout de même un petit moment. Il avait fait faire une analyse graphologique du fiancé de sa fille. Parce qu'il voulait tout de même maîtriser et pas la donner à n'importe qui. C'est mal barré, hein, quand ça commence comme ça, hein. Alors de fait, il avait du mal à la vivre comme une valeur ajoutée, ça c'est clair. Hein. Enfin, donc si la première c'est cette figure de l'alliance, et la deuxième c'est cette dynamique de création et pas de maîtrise, si vous voulez, la création c'est l'étonnement, la création, je veux dire, je ne maîtrise pas en donnant, enfin moi je n'ai pas donné la vie physiquement, mais les pères ou les mères qui ont donné la vie, vous savez, on ne maîtrise pas, même si on a l'impression que c'est notre fabrication, pipeau, hein. Il y a eu un petit moment de plaisir ou pas, et puis le reste du temps, on a laissé faire. Hein. Bon, ben, c'est ça la création. Et donc, nous vivons un acte créateur, non pas en voulant tout maîtriser, mais en voulant donner la vie, en sachant que nous ne la maîtrisons pas, cette vie. Et le dernier point, c'est qu'il faut entrer dans la promesse, c'est-à-dire demain, demain est lumineux. Et je trouve qu'aujourd'hui, demain est lumineux, et donc toute personne que je rencontre peut éclairer ce demain. Toute personne que je rencontre va m'aider à ouvrir des chemins vers demain. Alors qu'aujourd'hui, on est dans des schémas de sécurité, donc j'oppose promesse et sécurité, on est dans des schémas de sécurité qui donnent l'impression que non seulement on n'a pas l'impression que demain sera heureux, mais on est très catastrophiste sur demain.